Ce matin, je voudrais vous parler au sujet du psaume 1. Alors, je sais que c'est un des psaumes les plus connus, et que, à part peut-être le psaume 23, mais je pense que vous avez sûrement entendu des prédications sur ce thème du psaume 1. Alors, je voudrais que le Seigneur renouvelle notre lecture de ce psaume. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ce psaume, mais vraiment que le Seigneur puisse faire quelque chose de nouveau avec ces paroles qui ont été écrites des milliers d'années, qui sont paroles de Dieu et qui sont toujours vivantes pour nous aujourd'hui. Alors peut-être, avant de lire le texte, je voudrais que nous prions ensemble, pour que nous ayons un cœur ouvert à écouter sa parole et à la recevoir à nouveau. Seigneur, permets-nous d'entendre à nouveau ta parole, qu'elle soit pour nous comme une nouvelle parole, Seigneur. Qu'elle crée en nous la soif, qu'elle crée en nous le désir de mieux te connaître, de mieux te suivre. Seigneur, que ton esprit soit sur nos cœurs maintenant et que ton esprit nous éveille à la foi encore une fois. Amen. Alors, le texte va s'afficher. Vous arrivez à le lire tous? Vous avez peut-être vos Bibles? C'est encore mieux de prendre vos Bibles quand vous les avez. Je vais vous laisser lire pour vous-même. Parce que le psaume, c'est quelqu'un, un homme comme vous et moi, qui écrit le psaume. Le Seigneur se sert, met son inspiration et en fait devenir parole de Dieu. Mais en même temps, lorsqu'on lit le texte, on peut le lire voilà, comme un texte, comme un poème, mais on peut le lire comme une parole que je peux m'approprier. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions nous approprier ce texte. Alors, je vais vous demander simplement que vous puissiez prendre le temps de le lire, vous-même, avant que je le lise une fois pour toute l'Assemblée, mais pour vous dire, c'est mon psaume, c'est à moi. Ok ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. L'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Parole de Dieu. Les psaumes sont classés selon leur genre littéraire, vous savez. Les plus connus, bien sûr, sont les psaumes de louange. Et nous aimons ces psaumes de louange parce que ça exalte notre cœur. On a envie de remercier le Seigneur. Alors, je vous ai appris il y a 15 jours qu'il y avait aussi des psaumes de repentance. Et là, on a une autre sorte de psaume. Ce n'est pas un psaume de repentance, ce n'est pas un psaume de louange, ce n'est pas de l'action de grâce, ce n'est pas de la supplication. Il n'y a pas de nom d'auteur, ni d'occasion pourquoi il a été écrit. Il ne s'adresse même pas à Dieu, ce n'est même pas une prière, c'est un psaume qui enseigne. On appelle ces sortes de psaumes les psaumes de sagesse, c'est un psaume qui appelle à la sagesse. Alors vous savez, lorsque il y a un thème qui est très important dans la Bible, c'est le thème de la sagesse. Alors la sagesse, ne voyez pas la sagesse philosophique des Grecs, mais une autre sorte de sagesse, qui est la sagesse biblique, c'est-à-dire l'art de bien se conduire dans la vie selon la pensée de Dieu. l'art de faire les bons choix selon la pensée de Dieu. Et c'est comme cela que, par exemple, dans le livre des Proverbes, la sagesse est décrite comme une personnifiée, je dirais, comme étant à la croisée des chemins, en train de crier et d'interpeller les gens qui passent. Choisissez le bon chemin, choisissez la bonne foi. Et elle crie, hein, elle murmure pas, elle crie à plein gosier. Jusqu'à quand, insensé, vous allez dans ce côté-là? Venez plutôt de ce côté-là. La sagesse crie à la croisée des chemins. Et ce thème du choix que Dieu demande, il est là tout le long de la Bible. Et vous connaissez par exemple, dans le livre de Deutéronome, lorsque Moïse parle au peuple et parle de la part de Dieu, Dieu lui dit « J'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Ne choisis pas la mort, choisis la vie. » Par exemple, il y a encore le contexte de Josué, lorsque Josué a fait rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis et que Josué est à la fin de son ministère. Il va dire maintenant « Décidez, choisissez qui vous voulez servir. Ou est-ce que c'est le Dieu des Amoréens ou est-ce que c'est l'Éternel qui vous a fait monter du pays de l'Égypte jusqu'à maintenant? Choisissez qui vous voulez suivre. » Josué va dire ce verset merveilleux que beaucoup d'entre vous, vous avez à votre maison. « Moi et ma maison, quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, le psaume 1 décrit par contraste deux chemins ou deux voies, des chemins que l'on doit choisir. Et ce psaume nous invite à faire ce choix, à marcher dans la voie du juste et abandonner la voie des méchants. Alors, la structure du psaume est facilement identifiable. Les versets 1 et 3 décrivent la voie du juste. Premièrement, en utilisant des négations, le juste est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et puis, le dernier verset qui me semble être le centre quand même du psaume, c'est quelque chose de très vachement positif, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et puis après, les versets 4 et 5, décrit la voie des méchants, ce que sont les méchants. Ils sont comparés à la paille, à de la balle, et qui ne tiennent pas lors du jugement. Et le verset 6 résume un petit peu le psaume. Le Seigneur connaît la voie des justes, la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, je voudrais ce matin plutôt me concentrer sur la voie des justes, n'est-ce pas? Et je vais laisser la parole de Dieu faire son travail en vous, si vous marchez dans la voie que la Bible appelle la voie des méchants. Ok ? Alors, le psaume commence par un heureux, béni. C'est formidable. Parce que Dieu a le souci de notre bonheur. Dieu a le souci de que nous soyons des personnes heureuses. Et je trouve que c'est extraordinaire que ce mot qui ouvre tout le psaume, hein, tous les psaumes, les 150 psaumes que nous avons, mais aussi ouvre le psaume 1, heureux, heureux. Ce n'est pas simplement une petite joie parce qu'on aurait quelque chose de matériel qui nous aurait été accordé, mais plutôt le sens d'une plénitude de joie, d'une quintessence, je dirais, de joie et de bonheur. Pas simplement un petit bonheur que l'on va chercher, comme selon la publicité, hein, va chercher bonheur, n'est-ce pas? Ça m'est resté, moi, ça, quand je va chercher bonheur. Mais non, on n'a même pas besoin de le chercher, le bonheur, puisqu'il est, il est simplement la conséquence d'une vie dans la voie droite, dans la voie de la sagesse. Le bonheur intéresse Dieu. Le bonheur n'est pas vu non plus comme une récompense à des bonnes actions. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu donnant. Si tu fais ça bien, je vais te donner. Si tu te conduis bien, je vais te donner. C'est même pas ça. Notre Dieu, il est vraiment beaucoup plus que ça. Il donne des choses gratuitement, hein, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais je dirais le bonheur de l'homme qui suit la voie juste, la voie droite, c'est plutôt la conséquence de sa vie. Une conséquence comme le fruit, je dirais, naturel de la vie droite. Pas vraiment la récompense. En fait, je dirais, le bonheur habille bien l'homme juste. Parce que il est, j'avais l'image là pendant que j'étais assis, vous savez, on a gardé Franck et Marie, on a gardé leur poisson. Oui. Et c'est leur poisson rouge. Il s'appelle Rouge d'ailleurs, le poisson, vous saurez tout. Et hier, on allait l'amener chez Franck et Marie, parce qu'ils sont de rentrée de Bretagne, et dans la voiture, ben, ça a fait comme ça. Et à un moment donné, Chantal fait tomber le petit aquarium rond, et je dis, oh pétard, où est-ce qu'il est le poisson, vous voyez? Bon, ça va, il était encore dans le bocal. Il est encore dans le bocal. Mais imaginez le poisson en dehors du bocal, est-ce qu'il aurait été heureux? Je ne pense pas, il aurait respiré. Le bonheur, c'est ce qui nous va bien, comme l'eau va bien au poisson, vous voyez. Et c'est la conséquence d'un style de vie du juste, un style de vie de la sagesse. Le bonheur de l'homme intéresse Dieu, mais c'est loin, il est loin de la représentation du bonheur qui est véhiculé par les médias. Le bonheur, ce n'est vraiment pas d'avoir de la richesse, pas avoir la meilleure des voitures, le meilleur des iPhones, voilà, tout ce que les médias peuvent nous véhiculer par rapport au bonheur. Le bonheur, c'est d'être à la bonne place, comme le poisson est à la bonne place lorsqu'il est dans l'eau. Hein ? Vous comprenez ça ? Voilà, c'est ça le bonheur. Et lorsque, en Christ, nous avons été trouvés, lorsque le Seigneur Jésus nous a placés sur le chemin droit, sur le chemin de la voie droite, c'est comme si nous avions retrouvé, je dirais, notre vraie place, la vraie place qui nous était destinée depuis le commencement du monde. N'est-ce pas extraordinaire ? Avant d'être chrétien, j'étais comme un poisson qui recherchait l'air. Aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a sauvé gratuitement par grâce, il m'a placé dans l'environnement qui me convient et qui me permet de respirer pleinement, de jouir pleinement de la vie qu'il me donne. Alors qu'importe si je n'ai pas la meilleure des voitures, j'ai acheté une Yaris. Avant, j'avais une plus grosse voiture, j'ai acheté une plus petite voiture. Je me suis dit quand même... Ça la fout mal quand même d'avoir une plus petite voiture. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis j'ai balayé cette pensée-là. Parce que le bonheur, ce n'est pas d'avoir une plus grosse voiture, n'est-ce pas? Le bonheur, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas la frime, le bonheur. Le bonheur, c'est d'être à la bonne place sur ce chemin que le Seigneur veut que nous prenions. Alors, ce qui est très, très marrant, c'est que l'enseignement de Jésus, alors bien sûr, il a prêché avant le serment sur la montagne, et il commence son enseignement par le même mot, heureux, heureux, heureux. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le serment sur la montagne va se conclure par ce choix que nous devons faire entre deux chemins, entre deux portes, entre deux maisons, entre deux fondations. C'est comme ça que le Seigneur conclut. On a l'impression que Jésus enseigne sur le psaume 1, tout le serment sur la montagne. Il commence par heureux, il décrit deux chemins, deux voies, deux maisons, deux fondations. Entrez par la porte étroite, large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à la vie. Choisissez le chemin de la vie. Jésus reprend cet enseignement de ce psaume-là, l'amplifie et nous pose aussi cette question-là. Entrez par le chemin étroit. Et ce qui est encore plus extraordinaire, vous savez, c'est que pratiquement les derniers mots de l'Apocalypse, c'est « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Wow, le Seigneur veut vraiment que nous soyons des gens heureux. Non pas dépendants des choses circonstancielles, heureux parce qu'à la bonne place, au bon endroit. Amen. Alors la voie du juste est décrite d'abord sur le mode négatif. Ne pas marcher selon le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs, ne pas s'asseoir sur le siège des moqueurs. C'est bizarre de décrire quelque chose par ce qu'il ne fait pas. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Si vous vous posez quelqu'un cette question dans la rue. Ah ben, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui paye ses impôts normalement, enfin, qui ne vole pas le fisc. Normalement. C'est rare que les gens décrivent le chrétien comme quelqu'un qui aime Dieu. Et pourtant, c'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons décrits. Alors, je dirais que dans ce psaume, l'effet négatif, il est juste là. Les trois verbes qui sont à la négation sont là simplement pour rehausser ce qui est en fait l'essentiel. C'est prendre plaisir dans la loi du Seigneur. Et prendre plaisir dans la loi du Seigneur, c'est prendre plaisir à Dieu. Prendre plaisir dans le Seigneur qui parle. C'est un petit peu comme les bonimenteurs, vous savez, ceux qui sont dans les fêtes foraines et qui vantent la publicité d'un outillage, par exemple. Venez, messieurs, mesdames, je vais vous montrer l'outil extraordinaire. Regardez, voici cet outil-là qui est obligatoire pour toutes les ménagères. Ah, il ne coupe pas le bois, mais il ne coupe pas le fer. Mais alors, votre tranche de viande, qu'est-ce qu'il va faire avec? Vous voyez? L'aspect négatif qui rehausse l'aspect positif. Alors, comment voulez-vous que le monde nous voit? Simplement en termes négatifs, le chrétien, ben, il ne boit pas, il ne joue pas, il ne vole pas, il ne triche pas. Et vrai, c'est vrai, hein, tout ça, hein, d'accord? Mais le chrétien, c'est celui qui prend plaisir dans la loi de Dieu. C'est celui qui aime à être, se tenir devant le Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire, ça? En tout cas, c'est comme ça que je voudrais être décrit, moi. Et puis après, la conséquence, bien sûr, c'est que je ne vole pas. C'est que je ne triche pas, c'est que je ne mens pas. Saint Augustin, il disait cette vérité-là, comme ça, il disait « Aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Aime Dieu et fais ce que tu veux. » Ça ne veut pas dire qu'il nous donne la liberté de faire n'importe quoi, mais lorsque j'aime Dieu, eh bien, je prends plaisir à ce que Dieu aime. Je prends plaisir à faire ce que Dieu veut que je fasse. C'est comme cela, pas une morale, pas une chape de plomb sur nous, mais vraiment, je dirais, l'instinct amoureux, entre guillemets, pour Dieu. C'est étonnant de trouver la notion de plaisir par rapport à la loi de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui prend son plaisir à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est toute l'Écriture, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement des commandements, c'est la loi de Dieu, c'est toute l'Écriture. Ce matin, il y a Stéphane qui nous a parlé de cette parole. Pendant 400 ans, il y a eu comme un laps de temps où la parole de Dieu n'était pas là. Ça s'est passé même au temps de Samuel, où il nous est dit que la parole de Dieu était rare. Était rare. Je suis en train de préparer mon second sermon qui va venir plus tard, là je ne sais plus quand est-ce que je prêche. Et le verset qui me servait de base, c'était « Un jour j'enverrai la famine, non pas une famine de pain et de farine, mais une famine de la parole de Dieu. » Alors, souvent, je prenais ce verset comme quelque chose de positif. « Ah, Seigneur Jésus, tu vas nous envoyer une faim et une soif de la parole de Dieu. » Mais on voit que c'est comme un jugement. Qu'est-ce qui est pire que d'avoir faim de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu n'est pas là? Quand la parole de Dieu n'est pas là. Si vous avez faim, que vous rentrez chez vous, vous ouvrez la porte du frigo, il n'y a rien. Quand vous avez faim, vous rentrez chez vous, vous allez dans le congélateur, il n'y a encore plus rien. Que la parole de Dieu n'est pas là. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, la parole de Dieu est là. Je ne sais pas combien de Bibles vous avez chez vous. Je ne sais pas. Moi, j'en ai utilisé une il y a 15 jours, elle était encore là. Heureusement, j'en ai 5 ou 6 chez moi. La parole de Dieu n'est plus rare. Elle est là à notre portée de main. Par contre, la faim et la soif, où est-ce qu'elles sont de la parole de Dieu ? Saint-Esprit, viens réveiller la faim et la soif de la parole de Dieu, parce que ta parole, elle n'est pas rare, elle est nous, elle est là, à notre portée. Et alors, la voie du juste est décrite par une image que nous aimons bien, qui est connue. Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Une sacrée image, n'est-ce pas ? Nous avons au centre Martin Luther King l'image d'un olivier. Un bel arbre qui porte son fruit. Cette année, je priais. Et comme Pascal, j'ai passé aussi mon été à prier, et lui, il a reçu la faim et la soif, et moi, quelque chose qui ressemblait un petit peu étrangement à ce qu'il recevait de la part du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, Jésus, fais-nous croître. Fais-nous croître, mais de manière sereine. Fais-nous croître de manière certaine. Et je crois que c'est vraiment une pensée pour nous, que le Seigneur veut nous faire croître. Non pas parce qu'il y aurait une pression extérieure, mais parce que ça viendrait de manière, je dirais, naturelle et sereine. Parce que nous serons branchés, je dirais, fermement sur nos racines, à côté du courant d'eau qui est là. Et qui donne son fruit en sa saison. Alors je crois que cette année, nous allons croître sereinement, individuellement, de manière communautaire aussi. Et nous allons croître aussi certainement. Parce que l'arbre qui est planté près du courant d'eau, il croît sans faire d'effort. Alors bien sûr, l'arbre qui est planté près des courants d'eau, il y a des pressions extérieures, il y a la sécheresse, il y a le vent. Mais lorsque l'arbre est planté près des courants d'eau, eh bien, il continue de porter du fruit, de porter son feuillage, saison après saison. L'arbre est soumis à des contraintes, mais ses forces sont dans ses racines, parce qu'il puise loin et il puise fort. L'homme qui demeure dans la voie du Seigneur, l'homme juste qui demeure dans la parole de Dieu, prospère et devient mature en devenant ce que Dieu voulait qu'il soit, en produisant le fruit qui correspond à sa nature. Nous allons croître sereinement, nous allons croître certainement, parce que nous serons encore là une fois à la bonne place, sur le chemin, sur la voie du Seigneur. Si vous relisez le livre des Actes des Apôtres, comment appelait-on les chrétiens ? Ceux qui suivaient la voie. Ceux qui suivaient la voie. C'est drôle. Ceux qui suivaient la voie. Mes amis, nous ne commençons pas automatiquement sur le chemin, sur la voie droite. Je faisais partie de ceux qui marchaient sur la voie large. Je faisais partie de ceux qui sont comparés à de la paille. Et nous faisions partie, chacun d'entre nous. La paille, je ne vais pas la commenter, la paille. Il suffit de regarder les westerns, vous savez. Le vent, il souffle. C'est lugubre, il y a une musique harmonica derrière. Et puis, une espèce de truc là que le vent amène, qui ne sert à rien. Ça sert juste à faire le décor. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de faire le décor. Je n'ai pas envie de faire du décor. Nous ne commençons pas automatiquement notre vie à être juste ou à être sage. Nous ne commençons pas notre vie à marcher sur la voie qui est droite. Nous commençons notre vie en étant des pécheurs et nous marchions chacun d'entre nous sur la voie large qui mène à la perdition. Et à la croisée des chemins, nous avons entendu une voix, la voix de la sagesse. Chez certains, c'était un petit murmure qu'ils ont pris comme ça pour eux. D'autres, c'était une grosse voix qui les a arrêtés sur leur chemin. Et nous avons tous, par grâce, commencé à prendre le chemin droit, la voie droite. C'est la grâce de Dieu, c'est un don gratuit qui s'offre à tout homme qui entend son appel. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne sait pas dans quel chemin, sur quel chemin il est, il y a la voix de la sagesse ce matin qui crie et qui vous appelle, insensé, arrête de prendre ce chemin large, viens avec moi sur ce chemin étroit. Quelqu'un a dit ce matin, ou on l'a chanté, je ne sais plus, Jésus est le chemin. Cela veut dire qu'il ne nous indique pas simplement le chemin. Vous voulez venir chez moi. Vous ne savez pas, vous connaissez juste l'adresse, 246 chemin du Lavoir. Vous venez d'ici. Vous demandez à une personne, vous connaissez le chemin du Lavoir ? La personne va dire non. Vous demandez à une autre personne, la personne, ah oui, oui, je crois connaître le chemin du Lavoir. Vous descendez, vous passez devant Vatel, vous prenez la première à droite. Vous arrivez à une place, vous prenez la première à gauche, vous continuez encore 50 mètres, vous reprenez le chemin à droite. Voilà, alors au début, je capte, ça va, je commence à marcher, puis au milieu du chemin, ben, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, le bonhomme. Et je suis encore perdu. Et je m'adresse encore à une autre personne. Connaissez-vous le chemin du Lavoir ? Il me dit, oui, je connais le chemin du Lavoir. Pouvez-vous m'indiquer le chemin du Lavoir ? Il dit, non seulement je vais vous indiquer, mais je vais vous y conduire. Je vais vous y conduire. Et c'est ce que fait Jésus avec nous. Il est le chemin. Il ne nous indique pas simplement le chemin à mener à nos propres forces. Il vient et il dit, Norbert, je t'amène au chemin du Lavoir. Je t'amène au bon endroit, à la bonne place. N'est-ce pas extraordinaire ? Et il m'a dit un jour, monte Norbert, je vais te conduire. Et aujourd'hui, il nous indique encore, monte, je vais vous conduire. Je vais vous conduire encore à la bonne place, au bon endroit. Alléluia ! Alléluia ! Frères et sœurs, alors, c'est une exhortation à choisir encore à être à la bonne place ce matin. Une exhortation et un appel de la sagesse à suivre le Seigneur. Là où il nous amène, à choisir cette voie droite, à choisir ce chemin du salut, à abandonner la paille. Lorsque Jean-Baptiste voit arriver Jésus, et il prophétise, il dit ceci, il a son vent à la main, c'est-à-dire cette pelle qui sert au moisson, il va enlever la paille de son air. Et il va garder le bon grain. Le Seigneur fait ça aussi avec chacune de nos vies et de notre intérieur. Il prend sa pelle. Parfois, il nous malmène quelque part, si vous voulez. Il nous jette au vent. Ce qui est léger, la paille, s'envole. Ce qui est lourd, rempli de gloire, retombe sur terre. Et ça, c'est à lui. Et le Seigneur fait aussi ce travail en nous. Il enlève la paille qui ne sert à rien juste pour le décor, pour donner la vraie vie. Amen. Prions. Seigneur, je veux te remercier parce que ta parole est une parole de sagesse qui nous amène à la vraie vie. Et Seigneur Jésus, je veux te demander, Seigneur Jésus, en tant qu'assemblée, tu nous fasses marcher sur cette voie droite. Seigneur, que tu nous fasses découvrir encore le plaisir et la joie d'être ancrés sur ta parole et dans ta parole, Seigneur Jésus. Fais-nous, Seigneur, choisir toujours ce qui te plaît dans le nom de Jésus. Conduis-nous, toi qui nous appelles à marcher sur ce bon chemin.